BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Bonjour à tous et bienvenue, il est 15h30, c'est BFM Business, c'est BFM Bourse, on est en direct, oui, même en ce 8 mai, on vous accompagne en direct jusqu'à 18h avec une séance de record une nouvelle fois aujourd'hui à la Bourse de Paris. Alors pas sur le CAC 40, mais sur le CAC 40 GR qui inclut les dividendes, beaucoup d'animation, quand vous regardez notamment Alstom aujourd'hui qui se distingue très clairement après la publication de ses résultats d'un plan de refinancement. On reviendra également sur BMW ou encore sur Ruby qui a publié ses résultats aujourd'hui. Dans un instant, John Plassard, comme tous les jours à 15h30, nous accompagnera pour USA Today. Et puis tout au long de cette émission, on vous donnera des conseils pour mieux investir. D'ailleurs, à partir de 15h50, on verra s'il faut mieux privilégier l'assurance vie, le PA ou les comptes titres, différentes fiscalités, différents points de vue. Et puis tout au long de l'émission, on vous apportera également des idées, de conseils, de valeurs afin d'alimenter votre portefeuille. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 18h et tout de suite c'est USA Today qui s'ouvre avec John Plassard qui nous accompagne comme tous les jours depuis Mirabeau. Bonjour John, merci de nous accompagner. Bonjour. Et puis Aude Kersulek qui nous attend depuis Euronext. Alors bon, si c'est du vert et des records à la Bourse de Paris, bonjour. À Wall Street, c'est un petit peu plus mitigé à l'ouverture.
Oui, c'est ça, une ouverture mitigée après une clôture dispersée hein, déjà hier où seul le Nasdaq était en baisse. Hein. Et là, on ouvre alors stable hein, pour le Dow Jones allez, qui est à le recul de 0,05% seulement, 38 865 points. Le S&P ouvre en baisse donc comme moins 0,3% à 5170 points. Et puis le Nasdaq est lui aussi dans le rouge, moins 0,5% 16 239 points. Donc cette ouverture mitigé. Tiens, si on regarde ce qui se passe du côté d'une valeur qui avait beaucoup perdu hier, Disney, on continue de perdre un peu de terrain. La valeur est en recul de 0,2% à $105. Et puis sur les autres marchés, l'obligataire, on est toujours dans une détente relative en dessous des 4,5% pour le 10 ans américain, 4,48 pour le moment, Étienne.
Merci beaucoup, Aude. Vous restez avec nous. On vous retrouvera dans quelques minutes afin de suivre la tendance à Paris. Mais juste avant, on a John Plassard qui nous attend. John, c'est vrai que c'est une semaine importante hein, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein. Les marchés ne font pas le pont, que ce soit en termes de statistiques, de dynamique, de résultats d'entreprise. On verra dans un instant qu'on a Uber qui se distingue aujourd'hui à Wall Street. Mais juste avant, d'un point de vue macroéconomique, on a plusieurs statistiques, à commencer notamment par les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis.
Oui, et puis on parlait de dynamisme. Et tiens, les demandes de prêts hypothécaires ont augmenté de 2,6% par rapport à la semaine précédente. C'est la semaine qui s'est terminée au 3 mai. C'est important parce que la semaine d'avant, on était en baisse de 2,3% et ça a mis fin, donc le chiffre d'aujourd'hui, à deux semaines consécutives de forte baisse des prêts hypothécaires. Alors, la raison, elle est très simple. On a le taux d'intérêt moyen pour les hypothèques à 30 ans. Vous savez que les Américains fixent à 30 ans. Eh bien, qui a diminué de 11 points de base pour arriver à 7,18% au cours toujours de la semaine qui se termine le 3 mai. C'est important parce que c'est la première baisse des coûts d'emprunt depuis 5 semaines. On avait atteint 7,29% au cours de la semaine précédente. Donc ici, on a une réelle détente globale sur les taux hypothécaires et donc plus de demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis.
Plus de demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis et puis dans le même temps des statistiques intéressantes par rapport à l'épargne Covid. On se souvient avec les confinements, il y a eu beaucoup d'épargne qui a été accumulée. Depuis plusieurs mois, on voit que cette épargne est de moins en moins présente et là, visiblement, elle est quasiment à zéro. Le consommateur américain a dépensé toutes ses économies.
Exactement, c'est l'étude choc de la Fed de San Francisco qui a publié un papier cette nuit en disant que, écoutez, l'épargne supplémentaire des Américains cumulée durant le Covid est arrivée à zéro. Vous savez, ça avait fait couler beaucoup d'encre l'année passée parce qu'on avait dit que les Américains avaient toujours ça sous le coussin. Eh bien, on serait arrivé à zéro. Alors, est-ce que ça veut dire que la croissance économique va pointer du nez et va aller plutôt vers le sud? Eh bien, pas du tout, puisque on sait que le marché du travail américain est toujours extrêmement solide. On sait qu'on a les Américains qui peuvent utiliser aussi leur épargne qui est non liée à la pandémie. Il y a toujours un tout petit peu d'épargne, de bas de laine chez les Américains. On a aussi des ménages qui possèdent plus d'actifs non financiers comme des biens immobiliers, par exemple, qu'avant la crise. Et donc, ils peuvent demander un crédit. Et puis, bien évidemment, Étienne, les Américains adorent les cartes de crédit. Les Américains adorent ces fameuses cartes aussi qui s'appelle les buy now pay later, c'est-à-dire que on achète maintenant mais il paye plus tard sans frais, et donc ça alimente toujours la consommation américaine et évidemment la croissance américaine. Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus d'excédent d'épargne du Covid que les Américains, que la croissance américaine va s'effondrer du jour au lendemain.
Et on l'a encore vu avec les résultats, hein, puisque aux États-Unis, vous avez 85% des sociétés du S&P 500 qui ont dévoilé leurs résultats et 80% des résultats sont au-dessus des attentes. On en parlera à partir de 17h. Comme tous les jours, on fait un point avec vous, John Plassard, sur les élections américaines qui se rapprochent. Hein, ça sera le 5 novembre prochain et Donald Trump qui fait encore l'actualité aujourd'hui.
Une excellente nouvelle pour Donald Trump, puisque un juge américain de Floride a reporté, tenez-vous bien, indéfiniment le procès de l'ancien président accusé d'avoir conservé illégalement des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Je vous rappelle quand même qu'il était accusé de 7 chefs d'accusation et que, en plus, il était accusé d'avoir fait obstruction aux efforts du FBI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que normalement, pas avant les élections de novembre, Donald Trump devrait connaître un procès en Floride. Actuellement, il faut rappeler que c'est le premier, c'est le seul et le premier président, ex-président américain à être au pénal à New York, mais en Floride, potentiellement, s'il devient président, il pourrait tout simplement annuler les accusations contre lui. Donc c'est une excellente nouvelle pour Donald Trump. Peut-être pas pour la justice, Étienne, mais en tout cas pour Donald Trump.
Et voilà donc ce feuilleton concernant les élections américaines que l'on vit jour après jour avec vous, John Plassard. Maintenant, on va se pencher sur les résultats d'entreprise. Alors bon, on est vraiment dans la fin des résultats. On est sur des sociétés moins majeures. Néanmoins, à souligner aujourd'hui, Uber, ça passe très mal, ses résultats trimestriels, puisque vous avez le titre qui perd 8% à l'ouverture.
Oui, et pourtant, si on regarde les résultats, le bénéfice de base ajusté à 1,38 milliard au premier trimestre a augmenté de 82% par rapport à l'année passée. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 10,13 milliards. Mais, ce qui pose problème, et c'est le même message que pour les autres entreprises, c'est les attentes de réservation pour le deuxième trimestre qui sont extrêmement décevantes. Donc, évidemment, la valeur est sanctionnée. Il faut rappeler ici qu'à chaque fois qu'une entreprise à New York publie des très bons résultats, mais avec des anticipations un peu plus douteuses, comme Disney dont vous parliez avant, Étienne, les sanctionner directement en bourse.
Et donc ce titre Uber qui abandonne un peu plus de 8% aujourd'hui. Autre valeur qui est en baisse à l'ouverture, Intel, le secteur des semi-conducteurs, qui en plus des défis technologiques doit faire face aux défis géopolitiques.
Oui, exactement. Intel a annoncé qu'il s'attendait désormais à un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur à la fourchette qu'il avait annoncée de 2,5 à 13,5 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que le gouvernement américain l'a informé qu'il révoquait certaines licences d'exportation de puces accordées à Huawei en Chine. C'est-à-dire que Intel ne pourra plus exporter certaines puces vers la Chine. C'est la même chose aussi pour Qualcomm qui est en train de souffler en bourse actuellement. Et donc, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça que Intel a intégré ces données pour le prochain trimestre en disant que, bien évidemment, les ventes seraient moins importantes que le trimestre précédent.
Et ce titre Intel qui perd un peu plus de 2%, Nvidia, de son côté, perd un peu plus de 1%. On termine avec vous, John Plassard, depuis Mirabeau, sur une autre valeur qui décidément n'arrive pas à convaincre les investisseurs. Il s'agit de la maison mère de Tinder, si je ne me trompe pas, c'est Match.
Exactement, maison mère de Tinder, entre autres pour les rencontres. C'est très intéressant de regarder que l'entreprise a annoncé prévoir un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes, tenez-vous bien, parce que les utilisateurs, donc les célibataires, réduisent leurs dépenses pour les applications de rencontres. C'est très intéressant de le noter. Pourquoi ? Parce que ça vient dans la consommation courante et potentiellement, les Américains, comme on l'a dit avant, ont peut-être un peu moins d'argent pour se rencontrer à travers le net.
Et donc, ce titre Match qui perd du terrain, quasiment 8% de baisse à Wall Street. Merci, John Plassard, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour l'ouverture américaine. Et donc, Wall Street qui est dans le rouge dans les premières minutes de cotation avec un Nasdaq qui cède 0,5%, le S&P qui perd 0,3%, le Dow Jones, de son côté, est à l'équilibre, alors que la Bourse de Paris, elle, de son côté, est sur des records historiques quand vous regardez le CAC 40 avec le dividende, CAC 40 GR, l'indice CAC 40 classique, de son côté, lui, est à moins de 2% de son plus haut grâce à une hausse de 0,7% à 8132 points.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on va prendre un petit peu de recul par rapport à la situation macroéconomique, géopolitique, avec notamment Patrice Gautry qui nous accompagne depuis l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice Gautry, merci de répondre à l'appel de BFM Business. Avec, en effet, il y a un instant, John Plassard qui nous parlait des prêts hypothécaires. On a pas mal d'actualités aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec la Banque de Suède qui a annoncé aujourd'hui baisser ses taux directeurs. Demain, c'est la Banque d'Angleterre qui va se réunir. Bon, visiblement, en Europe, ça y est, les baisses de taux commencent petit à petit à se mettre en place.
Oui, le schéma effectivement de la détente progressive des politiques monétaires européennes se poursuit, puisque ça avait été initié par la Banque nationale suisse. C'est prolongé effectivement par la Banque nationale de Suède, qui a en même temps annoncé ce matin qu'elle pourrait encore baisser par deux fois son taux d'intérêt directeur, donc au second semestre. Demain, la Banque d'Angleterre, vous l'avez rappelé, elle se réunit. Il n'y aura certainement pas de baisse de taux encore. Mais par contre, on peut avoir un ton et une communication beaucoup plus favorable, un petit peu comme la BCE la dernière fois, c'est-à-dire que l'orientation et de l'économie, mais aussi surtout du marché du travail et de l'inflation devrait, je dirais, construire un horizon dans lequel la Banque d'Angleterre pourrait baisser ses taux dès le mois de juin. Alors là, on n'a pas des anticipations aussi rapides sur les marchés monétaires. Par exemple, il reste un petit peu plus circonspect. C'est pour ça que demain, on regardera avec attention la teneur, en fait, de cette communication pour voir si la prochaine baisse est le mois de juin, le mois d'août ou le mois de septembre. Mais dans le scénario que nous retenons, on peut avoir une baisse dès le mois de juin du côté anglais.
Je le disais, les marchés sont sur leur plus haut historique ou presque en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec notamment les perspectives de baisse de taux aux États-Unis, parce qu'au final, c'est ça qui compte. Hein. C'est la Fed qui est largement suivie par les investisseurs. Et là, on voit des investisseurs qui, la semaine dernière, pariaient sur une baisse de taux. Et là, finalement, ils voient peut-être deux baisses de taux avec un rapport sur l'emploi américain vendredi qui avait rassuré.
Oui, tout à fait. Effectivement, le schéma d'inflation laisse pas beaucoup de marge en fait pour la Fed de baisser ses taux, et si on se cale sur le scénario d'inflation, revenir vers 2,5, eh bien ce sera peut-être en toute fin d'année, mois de décembre ou début d'année prochaine, ce qui voudrait dire que basé sur ce scénario d'inflation, la Fed ne baisserait qu'une fois ses taux d'intérêt directeurs. Mais la porte est ouverte, et on a vu avec le ralentissement prononcé du marché de l'emploi un début de remontée du taux de chômage, et eh bien en fait ce calendrier pourrait éventuellement être un petit peu accéléré, puisque Monsieur Powell a déclaré pendant sa conférence de presse que si jamais il y avait une dégradation rapide de l'emploi, eh bien la Fed agirait un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt, ça voudrait dire peut-être le mois de septembre. Donc il y a deux options. Si on enlève toutes les réunions qui se tiennent au moment de la campagne électorale, octobre et novembre, eh bien ce serait soit septembre, soit décembre de cette année. Mais effectivement, ça donne un schéma de baisse de taux qui est un petit peu plus faible que celui qu'on va trouver dans les banques européennes.
Et comment vous voyez, vous, ces scénarios de baisse de taux aux États-Unis, sachant qu'on le voit semaine après semaine, il y a un consensus qui n'arrive pas à se former pour l'instant, en dehors du fait qu'il n'y aura pas de baisse de taux au mois de juin, ça c'est quasiment sûr.
Oui, effectivement, il y a un consensus sur la croissance, il y a à peu près un consensus sur l'inflation. Par contre, il y a autant de scénarios en fait de baisse de taux d'intérêt directeur qu'il y a de marchés monétaires, obligataires et peut-être même d'économistes aux États-Unis. Le scénario que je privilégie est basé peut-être sur le scénario sur l'inflation. Donc la détente de l'inflation mettra du temps, comme je l'ai dit. On retrouvera le range ou le corridor de 2,5% qu'au début d'année prochaine, ce qui voudrait dire que dans ce scénario-là, la Fed est justifiée de baisser les taux plus tôt en décembre et devrait être patiente encore sur les prochaines réunions de l'été et peut-être même en septembre. Et comme je le disais, en fait, il y aurait une assurance tout risque du côté de l'emploi. Si jamais l'emploi se dégradait, alors à ce moment-là, septembre pourrait revenir en probabilité. Mais basé sur l'inflation, c'est un scénario plutôt d'attente et ça a l'air d'être en ligne avec ce que déclarent les derniers gouverneurs, puisque chaque jour en ce moment, on a des déclarations et ceci valide plutôt effectivement encore le scénario d'attente.
Et aujourd'hui, vous avez 65% des investisseurs qui parient au moins sur une baisse de taux de 25 points de base au mois de septembre, d'après le dernier consensus. Bon, en tout cas, le 10 ans américain, qui était encore à 4,7% il y a une quinzaine de jours, se retrouve sous les 4,5%, avec dans le même temps une dynamique sur les résultats d'entreprise qui est au rendez-vous. Ça, c'est vraiment la bonne surprise, en plus, qui permet au marché actions de bien se porter.
Oui, la détente des taux et surtout l'horizon, en fait, qui n'est pas fermé sur la détente de la Fed, donc maintient effectivement ou alimente en fait la hausse des indices et maintient des valorisations à un niveau élevé. Et sachant que en dehors de quelques déceptions aux États-Unis ou en Europe, eh bien, la copie des résultats est très très bonne. Et en fait, on s'oriente vers une année 2024 qui est une très bonne année en termes de bénéfices. Il faudra être vigilant peut-être effectivement sur la progression de l'année prochaine. Mais cette année, on est déjà presque à la fin du premier semestre et on voit bien que les marges des entreprises se tiennent très bien, la capacité à délivrer et à surprendre sont aussi encore là, dans un scénario économique qui est très bon, la croissance ralentit en définitive relativement peu et une Fed qui laisse la porte ouverte à des baisses des taux. C'est Goldilocks, comme on appelle, c'est-à-dire en fait quelque part aussi le meilleur des scénarios pour les actifs risqués.
Alors c'est toujours compliqué de se mouiller sur les niveaux de marché, mais là vous pensez qu'ils sont justement valorisés ou à contrario, une pause serait plutôt bienvenue actuellement?
Alors, on l'a vu d'ailleurs, le Nasdaq a fait des pauses récemment. Il y a eu une période un petit peu trouble. Et puis, en fait, dès qu'il y a en fait de bonnes surprises sur un certain groupe d'entreprises et d'entreprises leaders avec l'actualité ou l'évolution, la maturité en fait que l'on a, par exemple, sur l'intelligence artificielle, eh bien, on voit que le marché rebondit et reprend. C'est-à-dire en fait que dès que le marché corrige, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont prêts à reprendre des paris. Donc, un environnement dans lequel les taux longs se calment, la Fed reste ouverte à des baisses de taux, permet effectivement de maintenir les indices à un niveau élevé, tant du côté américain que aussi du côté européen, puisqu'on a quand même pas mal de facteurs d'entraînement.
Dans vos notes à l'Union bancaire privée, quels sont les points d'attention que vous avez notés ou certains points négatifs, des points de vigilance qu'il faut avoir en tête? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque géopolitique est un petit peu absent des scénarios. On en parlait encore il y a quelques instants avec John Placer de Mirabeau, mais pour l'instant, l'élection américaine n'est pas du tout dans le jeu des marchés.
Oui, alors il y a trois risques. Les risques géopolitiques sont bien entendu importants. Ils sont même très, très élevés, je dirais, par rapport à cette espèce d'image de normalité que peut renvoyer, en fait, et de prise de risque de la part des investisseurs. Les risques géopolitiques sont très importants. La campagne électorale va effectivement générer de la volatilité. Les tensions avec la Chine, tant les relations américo-chinoises que européennes et chinoises, il y a quand même effectivement des tensions qui sont importantes. Le Proche-Orient est effectivement dans une situation extrêmement vulnérable et pourtant le prix du baril est toujours à des niveaux relativement modérés. Le Brent est inférieur à 90$. C'est là effectivement le risque majeur que l'on peut avoir si jamais on revoyait 100$ ou 120$, comme certains effectivement pouvaient, je dirais, le pointer du doigt, si jamais on a une montée des risques géopolitiques. À ce moment-là, bien entendu, tout l'équilibre que l'on a en ce moment sur la désinflation et la détente des taux d'intérêt directeurs sera remis en cause et le consommateur américain dans une part, mais aussi européen, serait pénalisé par cette remontée du prix du baril. Donc, l'environnement géopolitique et surtout son débordement, en fait, sur les cours des matières premières peut être un facteur d'instabilité du scénario et comme on appelle, ça pourrait être un signe noir dans cet environnement.
Et dernière question sur les marges des entreprises. On a vu que pour l'instant, les résultats au premier trimestre étaient supérieurs aux attentes. Là aussi, il y a encore du potentiel dans les marges, dans la capacité des entreprises à dégager de la croissance, sachant que vous avez une épargne aux États-Unis qui est en train de se réduire à peau de chagrin.
Alors, du côté des marges des entreprises, on voit que c'est peut-être, alors peut-être pas l'expansion, ça c'était peut-être les trimestres passés et l'année dernière, mais on a une capacité à protéger les marges des entreprises et on le voit bien, par exemple, si je prends les derniers indicateurs PMI ou ESM, ils nous disent que, par exemple, ça se calme un petit peu du prix des entrants, donc en fait les prix des matières premières, mais par contre il y a toujours une certaine capacité à faire passer des marges, et ces marges elles sont peut-être un peu plus larges, et cette place elle est un peu plus importante dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier, parce que là on a encore une demande qui est très forte et qui est pointée sur le tourisme, les loisirs, les déplacements, et là visiblement il y a encore un peu de place pour laisser passer des marges.
Merci beaucoup Patrice Gautry. Je rappelle que vous êtes chef économiste de l'Union Bancaire Privée. Merci de nous avoir accordé quelques minutes en ce 8 mai, de nous avoir apporté votre éclairage depuis Genève.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Culture Bourse, comme tous les jours ou presque sur BFM Business, juste avant 16h, avec aujourd'hui Benjamin Chemla qui nous accompagne. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO, cofondateur de Shares. On rappelle en deux mots qui est Shares.
Shares est une plateforme française d'investissement qui permet d'investir en bourse notamment et en actions, en ETF.
Bon, alors du coup, vous êtes le bon invité aujourd'hui pour nous parler des différentes enveloppes pour investir en bourse. On va faire un petit peu de pédagogie pour les auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez l'assurance vie, le compte titre, le PEA. Bref, aujourd'hui, il y a une multitude de solutions pour investir en bourse. Comment aujourd'hui les distinguer?
Accrochez-vous, Étienne, sur votre chaise, ça va être intense. On parle souvent ici, à votre antenne, dans quoi investir. On essaie de répondre à cette question. Aujourd'hui, on va adresser une autre question qui est comment, dans quel type d'enveloppe investir. Effectivement, la réponse va fluctuer selon l'objectif. C'est déjà la première information importante. Est-ce qu'on est sur une logique de long terme? Est-ce qu'on est sur une logique plutôt passive ou une logique plutôt active? Donc selon cette réponse, on va envisager aujourd'hui quatre enveloppes. L'assurance vie, d'une part, donc on va voir qui est intéressant dans une logique notamment de transmission. On va envisager aussi le PEA, plan d'épargne action, que l'on connaît bien, mais on va rentrer un peu dans le détail, qui est intéressant notamment dans ses exonérations. On va parler aussi du PER, qui est arrivé en 2019, le plan d'épargne retraite, qui est intéressant. Il peut être individuel ou collectif s'il est fourni par votre entreprise. Et enfin, le classique, le compte-titre, qui offre une certaine agilité, mais finalement peu d'intérêt au niveau de sa fiscalité. Alors d'abord, si vous le voulez bien, la disponibilité, qui est un point important. Parce que quand on investit, on se pose souvent la question, et quid si je veux récupérer mon argent? Eh bien, la réponse n'est pas la même. Aujourd'hui, il y a une enveloppe, le PER, au sein de laquelle votre épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est un point important à préciser. Elle est bloquée, il y a évidemment des cas de déblocage anticipé, typiquement en cas d'achat de résidence principale, en cas malheureux de décès de votre conjoint. Il y a d'autres cas de figure comme la fin de vos allocations chômage. Il y a en fait deux autres qui sont dispo en permanence, donc l'assurance vie et le compte titre, vous pouvez retirer votre argent en permanence. Le PEA, enfin, il y a la règle des 5 ans. Si vous retirez avant 5 ans, eh bien tout simplement vous allez perdre les avantages fiscaux et devoir clôturer votre PEA. Après les 5 ans, en revanche, vous êtes exonéré de toute imposition sur votre plus-value. Maintenant, les règles et les limites, alors ça c'est important, il n'y a aucun plafond au sein des assurances vie dans le PER et dans le compte-titre. En revanche, le PEA, lui, il a quelques limites. On ne peut avoir qu'un seul PEA et on est limité à 150 000 euros initialement d'investissement. Alors on le comprend, puisqu'il n'y a pas de taxation, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values qu'on réalise. Donc forcément, il fallait une limite. Dans le cas du PEA-PME, on va avoir jusqu'à 225 000. Voilà au niveau des règles.
Et en plus de ça, sur le PEA, on ne peut pas acheter n'importe quelle action. Ça, c'est aussi
alors,
une règle
ça
à avoir en compte.
La question suivante, c'est dans quoi on peut investir? Vous avez raison, parce que tout ça est important. Donc, il y a une origine assurantielle dans l'enveloppe assurance-vie et l'enveloppe PER. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment, on va pouvoir avoir accès à un produit que les Français aiment beaucoup, qui est le fonds euro. Les Français aiment beaucoup le fonds euro parce qu'historiquement, il est sécurisé. C'est un investissement sur lequel, a priori, on ne peut pas perdre. En revanche, les rendements sont plus limités. Je crois que dernièrement, on était plus ou moins autour des 3%. Donc, ce qui est inférieur. Donc, net de charges, net de frais, 3%, c'est inférieur à l'inflation. De l'autre côté, dans quoi on peut investir quand il s'agit d'un PEA? Eh bien, dans des actions en direct. Et c'est ça qui va intéresser peut-être nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs. On peut investir dans des actions en direct, pourvu qu'elles soient européennes. Donc il y a quand même une limite. On va pas pouvoir investir dans Netflix ou dans Amazon. Et non fractionnées, pour ceux qui aiment, comme Shares, les plateformes de néo-brokerage. C'est là où, évidemment, il y a un avantage pour le compte-titre, qui lui offre une plus grande flexibilité. Il n'y a pas d'avantages fiscaux, mais on peut investir dans une grande variété de produits en direct, y compris des actions américaines ou des actions fractionnées, donc dès 1 euro, qu'on a pu évoquer sur cette antenne à quelques reprises. On peut de toute manière rappeler qu'il est possible de s'exposer au sein d'un PEA à des marchés américains via le panier d'actions qui est l'ETF, également qu'on avait pu évoquer ici. Donc c'est important, cette logique, j'investis en direct ou j'investis par l'intermédiaire d'un fonds ou d'une ce qu'on appelle une unité de compte dans l'assurance vie ou dans le PER. la fiscalité. Alors ça, c'est le gros morceau qui motive un peu cette chronique aujourd'hui. Évidemment, quand il s'agit d'un compte-titres, on va commencer par le plus simple. Le compte-titres n'offre aucun avantage d'un point de vue fiscal. Il y a une flat tax de 30% sur les gains réalisés. Alors, il y a quand même un point à préciser, c'est qu'il peut y avoir un intérêt à faire un compte-titres pro. Si vous êtes un freelanceur, si vous avez une holding, vous pouvez rentrer dans une logique de holding avec le compte-titres qui peut être intéressante. Mais ça mis à part, il n'y a pas d'intérêt à effectivement chercher de la fiscalité, de l'optimisation fiscale dans le compte-titres. En revanche, alors là, c'est intéressant, dans le PEA, on l'a dit, pas de taxation des plus-values. Donc si vous avez une logique un peu agressive, que vous cherchez du rendement et des placements en direct avec un certain objectif, eh bien effectivement le PEA paraît le plus logique. En revanche, si vous êtes dans une logique de transmission, j'insiste, hein, c'est important pour les gens qui nous écoutent, parce que avant 70 ans, l'argent que vous mettez en assurance vie, pourvu qu'il soit resté plus de 8 ans, eh bien vous avez un abattement jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire en cas de transmission de succession. Je m'explique, si j'ai 3 enfants, eh bien, je peux aller jusqu'à 450 000 euros à peu près de transmission avec un abattement total. Donc l'assurance vie est quand même un outil qui est assez pertinent. Il y a aussi des abattements sur la fiscalité annuelle, mais qui sont un peu plus limités. 4 600 pour un célibataire, 9 200 pour un couple. Alors avis à ceux qui hésitent à franchir le pas, demandez votre épouse ou conjoint en mariage, c'est le moment. Les frais, c'est le dernier point important. Alors évidemment, là, les frais, il y a autant de frais que de plateformes. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est selon chaque établissement. Mais ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que le PER d'une part et l'assurance vie d'autre part vont plutôt avoir un certain nombre de frais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien scruter ces frais. Des frais d'entrée, des frais d'arbitrage à chaque fois qu'on fait un mouvement, des frais de gestion de contrat, des frais d'UC, donc pas mal de frais hein, qui peuvent être qui font peur, hein, qui font peur. Donc il faut rentrer dans le détail. Là où en revanche, le compte-titres généralement va être gratuit. On peut en ouvrir plusieurs.
Contrairement au PEA.
On va avoir des frais de transaction, généralement, selon les plateformes qui peuvent être plus ou moins élevées. Hein, l'objectif des néo-brokers, c'est d'aller au plus bas. Et puis, le PEA, eh bien, il y a un point intéressant, c'est que depuis la loi Pacte, les frais sont plafonnés. Donc, ils ne sont plus aussi élevés. Alors, pareil, chaque plateforme va avoir une logique différente, mais ils n'ont pas tendance à être aussi significatifs et ils peuvent l'être dans d'autres enveloppes.
Peut-être une question sur les moins-values, parce que bon, parfois, y a des coûts qui sont des mauvais coûts et par exemple, parfois, on peut déduire les moins-values des plus-values. Ça peut être fiscalement aussi intéressant.
Oui, absolument. Les plus-values et les moins-values, ça fait partie d'une logique. Donc là-dessus, on est à peu près pareil dans l'ensemble des cas de figure. Alors forcément, quand il y a un abattement sur une plus-value, ça ne s'applique pas au sujet de la moins-value. Mais là, pour ce qui est des plus-values et des moins-values, je vous invite à regarder l'histoire du compte-titres pro, parce que c'est là où ça devient intéressant en fait d'avoir une logique en holding, puisqu'il faut rappeler que les plus-values ou surtout les moins-values peuvent être directement appliquées sur l'exercice. Et donc pour ceux qui font partie des 4 millions ou 5 millions de freelanceurs qui nous écoutent, en fait, vous pouvez utiliser votre holding, votre société pour investir, placer votre trésorerie par l'intermédiaire de ces outils, de ces enveloppes.
Et là, du coup, ça change totalement la fiscalité, hein, puisqu'on passe sur l'imposition des sociétés et on change totalement des barèmes. Hein.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de l'enveloppe, des cas d'investissement. C'est vraiment au cas par cas.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment regarder le sujet avec une approche très au cas par cas. On a tous des objectifs différents, comme évoqué, hein, selon le court terme, le long terme. Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est que généralement, c'est pas à boire ou à manger, c'est les deux. Donc, on invite souvent les gens à faire à ouvrir plusieurs comptes, notamment pour lancer les délais, puisqu'il y a 8 ans, le fameux 8 ans dans l'assurance vie, le fameux 5 ans dans le PEA. Donc finalement, il y a un peu cette tradition à 18 ans et un jour, on va ouvrir une assurance vie, un PEA, etc. pour commencer à faire courir les délais. Donc c'est un petit peu la logique. Moi, j'invite les gens à avoir une logique un peu hybride et avoir un peu de tout selon les objectifs.
Merci beaucoup en tout cas Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Shares, d'avoir donc fait un point de vue sur les différentes enveloppes hein, qui sont à notre disposition. Plan épargne retraite, assurance vie, compte titres, PEA et donc les holdings.
C'est parfait.
Merci d'avoir fait le point sur ces différentes enveloppes. Très courte pause. Dans un instant, il sera 16h. On se retrouvera pour faire un point sur la tendance du jour avec un CAC 40 dividendes réinvestis qui est sur des plus hauts historiques. On verra cela dans un instant avec Thibaut François de Fastea Capital. Et puis surtout, on reviendra sur la valeur du jour, Alstom, qui a publié ses résultats avec un titre qui est en forte hausse malgré une augmentation de capital qui sera dilutive. Visiblement, les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On voit tout cela dans un instant, à tout de suite.